Vous qui avez soif, venez. Au puits de la vie. Partout où vous avez bu jusqu'à maintenant et que cela n'a servi à rien et que votre soif n'a pas été étanchée, viens et reçois la puissance et le fleuve de la vie. Mes bien-aimés, nous sommes très reconnaissants à Dieu pour cette invitation merveilleuse, précieuse, aussi par ce cantique. Viens seulement à la source, elle coule pour ton bien. Bois, ainsi Jésus t'accorde la force et le courage de la foi. Et nous voulons toujours de nouveau dire, à chaque fois que nous venons nous réunir, il ne nous a jamais déçus. Nous avons toujours été nourris et rassasiés par sa sainte et précieuse parole. Mais pas seulement que ce cantique le dit, mais Dieu aussi lui-même le dit dans sa parole, par le prophète Ésaïe. Ici, il donne l'invitation au chapitre 55, et il dit ici, dans Ésaïe 55, au verset 1, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne vous nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez-moi l'oreille et venez à moi. Écoutez, afin que votre âme vive. Car je veux traiter avec vous une alliance éternelle. Je traiterai avec vous pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas et les nations qui ne te connaissaient pas accourront vers toi à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Et que cela n'est pas une parole merveilleuse. Vous tous qui avez soif, et je crois qu'aux choses terrestres, nous avons assez à manger et à boire, mais les choses dont notre cœur désire et notre âme a soif, c'est le Dieu vivant. Nous avons besoin de lui, particulièrement dans ces jours, du Dieu vivant. Peut-être là où nous vivons dans un monde religieux et ils se disent religieux, mais en fait, quand on regarde bien les choses, ils ne veulent rien savoir de Dieu, ils rejettent même sa parole et ils ne veulent pas écouter ce que Dieu a à leur dire dans nos jours. Mais nous pouvons dire que Dieu a un peuple qui volontiers veut écouter ce qu'il a à dire. Et je pense que nous pouvons nous compter à ce peuple. Et ça, cela par mérite, pas par mérite, mais parce que nous avons reçu la grâce de Dieu. Et nous sommes très reconnaissants à Dieu de ce qu'il nous a éclairci sa parole dans ces derniers jours. Nous voyons aussi en Israël, tous les jours, c'était un monde religieux et le Seigneur vint tel qu'il est écrit de lui dans les prophètes. Nous savons, il avait été annoncé par tous les prophètes, mais quand il vint, qu'est-ce qu'on a fait avec lui? Quand il leur a apporté la rédemption, la guérison et ceci et cela, qu'est-ce qu'ils ont fait de lui? Ils l'ont rejeté. Ils l'ont crucifié. Bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés amis, la même chose est à trouver dans nos jours. Mais en ces jours autrefois, il avait un troupeau, un petit troupeau, lequel lui accordait son attention et dont il pouvait ouvrir le cœur et la compréhension pour sa parole. C'est comme ça, nous le voyons dans la Sainte Écriture. Et la même chose est encore dans nos jours. Et nous ne pouvons rien faire d'autre que de remercier Dieu de ce qu'il nous a appelé et qu'il nous a trouvé. Et nous voulons marcher avec lui jour après jour, heure après heure, jusqu'à ce qu'une personne de la foi a la vue. Ça, c'est notre foi. Nous croyons les paroles de Dieu. Donc, j'ai affaire à beaucoup de gens aussi au travail. Et quand on leur parle de Dieu et quand on parle de ces choses, alors ils disent, oh, la Bible, on peut pas la croire mot à mot. Non, ça ne veut pas dire cela. Ils rejettent cette écriture. Mais pour les véritables croyants, la parole de Dieu est une réalité. Parce que c'est le véritable qui a parlé dans sa parole. Pour nous, c'est précieux. Et nous l'estimons et nous aimons la parole de Dieu de tout notre cœur. Et ça, c'est notre communion avec lui et les uns avec les autres. Et ainsi, nous sommes reconnaissants aussi maintenant pour cette petite réunion. Nous voulons nous lever pour demander au Seigneur sa bénédiction. Dieu fidèle, nous te remercions de tout notre cœur. Aussi pour cette heure, pour cette réunion, aussi pour ce mariage, tu nous as déjà richement bénis dans les temps passés et encore aujourd'hui, tu es en train de nous bénir. Tu as parlé déjà avec nous par ta sainte et précieuse parole. Nous t'adorons. Nous te demandons, Seigneur fidèle, que tu sois présent avec ton esprit et avec ta puissance. Manifeste-toi, continue à te manifester par ta sainte et précieuse parole. Car nous savons que ta parole est esprit et vie. Les paroles d'hommes passent, mais ta parole demeure éternellement. Jusqu'à dans toute éternité, elle reste valable. Le ciel et la terre passeront, mais tes paroles restent pour toujours. Et nous sommes reconnaissants et heureux pour cela et donnant à toi seul l'honneur dans le saint nom de Jésus. Amen. Amen. Remercier soit le Seigneur de ce que cela est encore vrai aujourd'hui. Tout ce que Dieu a dit est vrai pour toute éternité. Les paroles d'hommes ne sont pas sûres, ça nous le savons tous. Pas seulement que nous ne pouvons pas compter sur les autres, mais nous ne pouvons pas aussi dire que quelqu'un peut compter sur nous. Et chacun peut s'inclure. Donc, en aucun de nous, quelqu'un pourrait dire qu'on peut compter. Quand il s'agit des choses éternelles, des choses divines, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est sans erreur, qui est parfait, qui est au-dessus de toute erreur, de tout mensonge. Quand il s'agit du contexte de l'éternité, on ne peut pas avoir affaire à l'homme. On ne peut pas compter sur l'homme. On doit avoir affaire seulement à l'éternel. Je voudrais annoncer à l'avance, dire à l'avance, donc, pour vous tranquilliser, aujourd'hui, nous avons des invités et nous fêtons un mariage. C'est peut-être que nous n'allons pas tenir une longue prédication. Le Seigneur parle parfois très rapide, très court. Et sa parole entre profondément dans notre cœur. Et déjà, les choses sont passées avec nous. J'ai une parole dans le cœur qui va très bien à cette occasion du mariage dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 22. Ici, nous lisons à partir du verset 2. Matthieu 22, verset 2. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. » Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes. Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. » En allemand, n'étaient pas dignes d'en prendre part. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Jusqu'ici, cette histoire biblique du royaume de Dieu. Notre Seigneur, dans les évangiles, a donné tout un nombre, a utilisé tout un nombre de paraboles pour en image montrer de quoi il s'agit. Il s'agit du plus grand festin des noces de tous les âges, de tous les temps. Oui, le festin des noces du roi des rois et du seigneur de tous les seigneurs, auquel les hommes sont invités. Ici sur terre, l'invitation est donnée et c'est dans la gloire que le festin des noces bientôt aura lieu. Nous ne pouvons pas maintenant ici entrer dans l'histoire du salut, mais ça nous pouvons dire. Dieu a un concept, a un plan. Dieu sait ce qu'il veut. Les hommes ne le savent pas, ça c'est vrai. Et dans la religion, ce plan n'est pas connu, n'est pas à trouver non plus. Mais celui qui de tout son cœur cherche le plan de Dieu et qui est sincère et qui est humble, Dieu se laissera trouver cette personne encore aujourd'hui. Les choses de Dieu sont très simples et sont accessibles à tous ceux qui viennent à lui, sincèrement. Ici, il nous est dit, sortez, allez et invitez, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. Il lit le verset 4. Et qu'est-ce qui a été dit à ceux qui ont été? Et qu'est-ce qui a été dit à ceux qui ont invité? L'un a donné une excuse, l'autre encore une autre, et ils ne vinrent pas. Ils ne se sont pas inquiétés de l'invitation. Imaginez-vous, un roi, nous n'avons plus, mais si la reine d'Angleterre, par exemple, inviterait... Nous invitait chez elle à des noces, comme nous nous sentirions honorés, hein, n'est-ce pas? D'être invité par la reine d'Angleterre, nous le dirons à tous. Imaginez-vous, j'ai reçu, voici l'invitation. Ici, il y a un mariage qui aura lieu au château, et je suis invité. Tous nos voisins, tous nos collègues de travail, ça deviendrait un entretien dans tout le village et dans toute la ville. Mais ici, nous avons affaire à une invitation bien plus grande. Le roi de tous les rois, notre Seigneur, nous invite. Et ce qui est bien ici, merveilleux, c'est que il ne se tourne pas vers toutes les maisons de roi, mais il va à n'importe qui sur la route. Ici, il dit, allez donc dans les carrefours, pas au baron tel et tel, au roi tel et tel, au prince tel et tel, mais allez au peuple, dans la rue, et invitez. Et chacun qui écoute cette invitation et qui l'accepte, qu'il soit mon invité auprès de moi, le Seigneur. Ça, c'est pas une histoire. Ça, c'est une réalité. C'est pas ici une histoire, c'est une réalité. Et c'est ainsi que nous nous réjouissons de ce que cet appel dans notre vie est venu. Et nous tous cette invitation. Donc, nous tous qui sommes ici, nous avions été en chemin. Subitement, nous avons été appelés. Et notre attention a été attirée que Dieu a planifié quelque chose avec nous. Et qu'il a un plan, un concept. Et que sur terre, il a révélé sa volonté. Et déjà, dans notre cœur, ça a commencé à brûler. Avec Dieu, c'est une chose merveilleuse. Mais bien aimé, lors du premier entretien, lors du premier regard, déjà l'amour au premier regard, au premier entretien. Et nous pouvons ici voir que Dieu en Christ a tourné sa face à l'humanité. C'était un regard d'amour et rien d'autre. Dieu a, dans son amour, tourné sa face vers l'humanité. Il devait devenir homme à cause des hommes. Aujourd'hui, j'ai un article devant moi que je vais vous montrer tout de suite ou bien faire mention de ça. Il m'a ébranlé terriblement. Vous savez, concernant notre Seigneur, dans toute l'histoire de l'Église, toujours de nouveau, il a été débattu. Les grands théologiens, les plus grands théologiens ne pouvaient pas s'entendre qui est vraiment le Seigneur. Est-il Dieu? Est-il homme? Est-il un Dieu? Il n'est pas un Dieu, etc. Et c'est comme ça que les discussions continuaient. Mais jamais dans toute l'histoire de l'Église, il y a eu un temps dans lequel des hommes se sont oubliés à tel point qu'ils ont exprimé de telles choses comme dans nos jours. Vraiment, la mesure a débordé complètement avec Jésus-Christ. Depuis des années déjà passées, ils ont dit qu'il est une superstar, etc. Mais là, j'étais étonné, ébranlé de voir alors que dans le dernier magazine, le Time, c'est le plus grand magazine hebdomadaire du monde, du 7 mai 1984, à la page 44. Ici, Christ devrait être celui qui est montré ici. Et l'écrivain de l'article donne de son mieux. Avec des longs cheveux en désordre, avec une poitrine de femme, et d'une manière si humiliante dans la grande cathédrale de St. John à Manhattan. C'est une ville avant New York, exactement comme très connue comme Brooklyn. Et aux frais des États-Unis, avec nos impôts, le Seigneur Jésus-Christ a été blasphémé de cette manière. Il a été écrit, il n'est plus écrit Christ, il est écrit Christa. Donc, un nom de femme, et ça devrait être notre Seigneur. En tant que femme, avec des cheveux en désordre, avec des seins ouverts, là, montré sur la croix, sur la croix. Et je me demande à quel point le blasphème contre notre Seigneur doit aller. Les hommes ont perdu la crainte devant Dieu. Ils vivent comme s'il n'y aura jamais de jugement devant lequel chaque homme doit apparaître. C'est presque incompréhensible. Si les gens ne veulent pas croire, ils n'ont pas besoin de croire. Mais est-ce qu'il y a déjà, j'avais déjà vu quelqu'un blasphémé contre Bouddha et Confucius et Mahomet. Est-ce que j'avais quelqu'un qui a déjà fait une telle chose comme ils le font avec le Seigneur? Cela est une douleur pour nous parce que le Seigneur nous a aimés et il a donné sa vie pour nous pour que nous puissions passer de la mort et soyons sauvés de la mort, pour que nous puissions être sauvés de la mort. Et quand nous pensons que notre Dieu du ciel regarde sur terre et voit tout et enregistre tout. Et malgré tout, dans l'année 75, cela a commencé. Et la petite fille de Winston Churchill donne, n'est-ce pas, un exposé et dit bien sûr plusieurs choses là-dessus. Et elle dit donc, Frère Frank vient de le dire en anglais, il dit donc c'est Christ qui devrait être représenté en tant que notre mère. Qu'est-ce qu'on doit dire là-dessus? Les mots nous manquent. On ne peut rien dire là-dessus. On ne peut que dire, Seigneur, pardonne ces hommes. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous vivons dans un temps dans lequel les hommes ont perdu tout sens de proportion. Ils dépassent toutes les limites de permission et se moquent du Seigneur. Et cela en tant que le crucifié. Pour nous qui croyons à notre Seigneur Christ, notre Seigneur, la croix est un symbole de la rédemption, du salut. Pas seulement la croix, mais le crucifié. Si notre Seigneur n'était pas allé pour nous sur la croix, il n'aurait pas pu se charger de nos fautes, de nos péchés. Il n'aurait pas pu prendre là-bas sur la croix notre place. Nous aurions jamais pu vivre éternellement, jamais reçu le pardon de nos péchés, jamais nous serions accueillis par Dieu en grâce. C'est peut-être raison que tout ce qui est en relation avec notre rédemption est saint pour nous, parce que le Saint Dieu en Christ, notre Seigneur, s'est révélé. Il était selon le corps homme. Il a mangé et il a bu. Il a été trouvé comme un homme, comme un petit bébé, comme tous les autres hommes. Mais selon l'Esprit, il était le Seigneur, le roi de tous les rois. Car tous les autres hommes sont morts et ont été ensevelis. Et c'était leur fin. Mais notre Seigneur, il a pu dire auparavant, je ressusciterai le troisième jour et je vous précéderai en Galilée. Et cela a eu lieu. Le troisième jour, le tremblement de terre puissant a eu lieu et le Seigneur a apparu en tant que le ressuscité, en tant que celui qui a réglé le compte de la, qui avait réglé le compte de la mort, réglé le compte de l'ennemi, du diable, et qui est sorti en tant que le vainqueur sur tout ce qui nous avait touché en tant qu'humanité. Atteint. Et c'est peut-être donc que nous aimons notre Seigneur, parce qu'il l'a fait tout cela pour nous. Alors, si nous invitons des hommes à venir à lui, alors ce n'est pas à venir à une communauté religieuse. Non, bien aimé ami, ici il n'y a pas de membres, d'adhérents. Ici, personne n'est sauvé par un sacrement, pas des dogmes, pas des pratiques. Ici, nous venons de la simplicité, ensemble nous réunir en tant que des citoyens tout à fait normaux qui, durant des années, sont allés à leur profession, à leur travail, comme tous les autres hommes. Mais nous avons été saisis par la grâce de Dieu et nous avons expérimenté le salut de Dieu. C'est pour cette raison que de cette conviction profonde de notre cœur, nous pouvons dire aux autres, venez, venez au Seigneur, suivez cette grande invitation aux noces. Ne rejetez pas les serviteurs que le Seigneur envoie et ne leur dites pas, maintenant je n'ai pas le temps, je vais réfléchir. Mais comprenez que cette invitation, vraiment, est apportée par sous l'ordre du Très-Haut et est adressée à tous les hommes. Tous ceux qui veulent venir à lui peuvent venir, mais personne ne sera obligé de le faire. Au ciel, il y aura seulement des hommes qui vraiment veulent être là-bas. Dieu va obliger personne à aller en enfer et va obliger personne à aller au ciel. Les hommes, eux-mêmes, sont ici et c'est eux qui prennent le choix et qui prennent une décision pour l'éternité. Ça dépend de chacun. Dieu va nous obliger à rien du tout. Il a déjà tout fait pour nous. Ça dépend maintenant de nous. Est-ce que nous acceptons la grâce et le salut qui nous est offert en Christ Jésus dans la foi, l'accepter? Et que nous soyons conscients que notre Seigneur, n'est-ce pas, est venu à nous. Il est devenu homme pour nous sauver et pour prendre notre place, pour mourir de notre mort, pour que nous puissions vivre éternellement. Un homme croyant est réellement au sens divin. Il est passé de la mort à la vie. Il a déjà reçu la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur, de son vivant ici sur terre. La vie éternelle, nous ne la recevons pas par la mort. Elle nous a été accordée par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est peut-être raison que les Saintes Écritures disent, celui qui croit au Fils de Dieu, il a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas en lui, il n'a pas la vie. Ici, revenons très rapidement à cette invitation merveilleuse. Le verset 9, « Allez donc dans les carrefours. » Matthieu 22, verset 9, « Et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Tous ceux que vous trouverez. Donc, si un jour, avant que les portes se ferment, nous prenons cette parole au sérieux, ce sera notre devoir de nous adresser à tous ceux qui nous entourent et de leur dire, écoutez, voilà l'invitation de venir au Seigneur. Le temps de la grâce va vers sa fin. Les portes de la grâce vont se fermer pour toujours. Est-ce que vous voulez le salut et accepter la vie éternelle? Ou bien alors, est-ce que vous voulez passer à côté de cela à votre propre risque? Allez donc dans les carrefours, dans les rues et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Et dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Et au verset 10, il est dit que la salle des noces fut pleine de convives. Je voudrais, en ce jour glorieux que Dieu a déjà planifié et pour qui il a déjà tout préparé, je voudrais être parmi ceux-là qui entrent dans la gloire. Vous savez, toute personne qui a été née dans ce monde doit aussi quitter ce monde. C'est seulement la question où est-ce que nous allons. Au cimetière, personne ne pourra encore changer quoi que ce soit. Et dans une église, ou bien dans une église libre, dans une communauté ou bien une communauté libre non plus. La décision, chacun de son vivant, avant sa mort, doit l'avoir prise. Heureux les hommes qui peuvent aller à la rencontre du Seigneur, pas dans sa propre assurance, mais dans la certitude de la foi d'avoir reçu de son vivant la grâce de Dieu. Et c'est toujours des occasions particulières que le Seigneur utilise pour parler à nos cœurs. Une telle occasion, c'est un mariage ici, aujourd'hui, et une autre occasion est une occasion triste. Mais ici, c'est une occasion joyeuse lors d'un mariage pour inviter les gens à venir au Seigneur. Et ici, il est décrit ceux qui ont écouté, qui ont reçu l'invitation, mais qui n'ont pas pris au sérieux, qui ne se sont pas inquiétés de l'invitation. L'un est allé à son champ, l'un à son trafic. Chacun avait son propre chemin, ses occupations, ses excuses. Et ils n'ont pas prêté l'oreille, ils n'ont pas pris au sérieux l'invitation. Et le roi s'est mis en colère et a dit, les conviés n'étaient pas dignes. Allez donc encore une fois dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Verset 9. Et ensuite, la salle des noces fut pleine de convives. Dans le dernier livre de la Bible, il nous est déjà décrit comment est-ce que là-bas, dans la gloire, ce sera une fois. Dans Apocalypse, le chapitre 19, nous lisons à partir du verset 7. Réjouissons-nous, Apocalypse 19, verset 7, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, le verset 9, écrit, « Bénis ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Puis, il me dit, « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, « Garde-moi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Quelle parole merveilleuse! Vous savez que dans la parole de Dieu, le passé, le présent et le futur sont décrits entièrement. Il n'y a pas de livre comparable à la Bible. Il n'y a pas de livre qui nous informe sur Dieu, sur la création, sur le ciel et la terre, sur la vie et la mort, sur tout, qui pourrait nous donner des informations réelles en dehors de ce livre de Dieu, la Bible. Et pour cela, nous en sommes très reconnaissants. Donc, ici, nous est dit, réjouissons-nous, verset 7 d'Apocalypse 19, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Jésus-Christ, notre Seigneur, est apporté en relation avec notre, est décrit en relation avec notre rédemption, avec notre salut en tant que l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste a dit en un jour, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ici, il est parlé du festin des noces de l'agneau. Il est écrit et il est parlé. Car en tant qu'agneau de Dieu, notre Seigneur a payé le prix par son sang en répandant son sang sur la croix à Golgotha et pour se choisir une épouse, pour se racheter une épouse. Et dans le jour de la gloire, là-bas au grand festin des noces de l'agneau, la prendre dans l'enlèvement lors de son retour. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Apocalypse 19, verset 7. Nous voyons ici l'épouse que nous avons, ici au premier rang, assise, que nous voyons. Elle s'est préparée. Aussi pour ce mariage, il y a eu des préparations. Déjà, des hommes ont un concept, ils planifient, ils préparent. Des préparations sont faites. Dieu, lui, a un concept. Il a fait des préparations. Ce n'est pas seulement par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a rachetés, mais il a aussi préparé la gloire pour nous. Par sa grâce, il nous l'a accordé pour que nous puissions, nous, misérables personnes, qui sont nés déjà dans le péché, dans l'iniquité, que nous puissions être habillés en blanc comme l'épouse, en blanc, pas avec nos propres vêtements, mais habillés en blanc, justifiés devant Dieu, pas dans notre propre justice, mais ayant été justifiés par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur, l'agneau de Dieu qui pour nous a répandu son sang. Et ensuite, nous pouvons là-bas être habillés en blanc et apparaître devant le Seigneur et être auprès de lui. Et ici, il est dit, au verset 9, la deuxième partie, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. On peut ici dire un alléluia profond de tout son cœur et loué soit Dieu. Ce ne sont pas les paroles d'un homme, ce sont les paroles véritables de Dieu. Et tous ceux qui se laissent appeler par Dieu et acceptent la grâce de Dieu recevront aussi ces paroles véritables de Dieu et jetteront au bord tout ce doute. Vous savez, il y a deux choses. Vous savez, il y a trois sortes de foi. La foi, ensuite la foi qui est en fait l'incrédulité et une foi qui est en fait de l'erreur. Mais les hommes qui viennent à Dieu, leur foi est ancrée en Dieu, dans sa parole. Et tout ce qui se détourne de Dieu et dévie des Écritures, de sa parole, peut être religieux et garni de versets bibliques. Ça doit être en accord avec les Écritures, avec la Bible. Ça doit être en accord avec Dieu. Et si ce n'est pas en accord avec la Bible, ça ne va pas être éternellement en accord avec Dieu. Ce n'est pas possible. Car la Bible est la parole de Dieu. Et tout ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, la Bible, n'est pas de Dieu. Et Dieu devait nous montrer le chemin par sa parole. Il devait nous donner un critère à suivre, établir des lignes directrices pour qu'un jour il puisse nous appeler à rendre compte. S'il nous avait laissé à notre propre critère, alors comment est-ce qu'un jour il pourra nous juger? Il pourra dire, mais alors nous pourrions lui dire, bien aimé Dieu, nous n'avons pas su ce que nous devrions suivre. Mais là, il dira, je vous ai écrit 66 livres de la Genèse, chapitre 1 jusqu'à Apocalypse, chapitre 22. Et ici, dans ce livre, la Bible, de la première page jusqu'à la dernière page, je vous ai révélé ma volonté. Donc, personne n'aura une excuse devant Dieu. Ça, c'est le standard divin, c'est l'unique livre divin qui existe sur terre. Et heureux ceux qui n'interprètent pas ce qui est écrit dans la Bible, à droite et à gauche, romain par romain, grec par grec, protestant par protestant, de toutes les directions, dont il y en a des centaines de directions différentes. Non, heureux les hommes qui n'interprètent rien de tout ce qui est écrit dans la Bible, mais qui croient, de tout leur cœur croient tel que c'est écrit dans la Bible. Un tel homme a la promesse et l'assurance de Dieu qu'il sera sauvé et que Dieu ne peut pas mentir. Ça, vous pouvez en être sûr. Dieu n'est pas un homme pour mentir ou bien pour donner une promesse qu'il n'accomplirait pas. Dieu est véritable. Et c'est pour cette raison que maintenant nous avons lu. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Apocalypse 19, verset 9, pas les paroles d'un prédicateur, ou bien d'un prêtre, ou bien d'un homme. Ces paroles que nous pouvons lire dans la Bible sont les véritables paroles de Dieu. Comme c'est merveilleux et glorieux ce que nous pouvons croire de notre cœur, sans fanatisme, sans vouloir avoir raison, sans vouloir savoir mieux les choses que les autres. Tout simplement pouvoir croire simplement que Dieu, dans sa parole, nous a dit la vérité. Et croire ce que Dieu nous dit dans sa parole, c'est le cadeau le plus précieux que Dieu peut donner à un homme sur terre. Sa parole. Chacun qui sent le Seigneur passe du temps à l'éternité. Et déjà aujourd'hui, cette personne est à plaindre. Personne ne peut s'imaginer ce que c'est que de mourir séparé de Dieu et d'être séparé de Dieu. Et nous avons entendu la parole d'introduction, le Seigneur dit, venez tous à moi, mangez et buvez gratuitement, vous n'avez pas besoin de payer de l'argent pour cela, tout est déjà payé, tout est déjà préparé. Et directement dans le prochain verset, nous aurions pu continuer à lire dans Ésaïe 55, là il est écrit encore, au verset 6, Ésaïe 55, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Donc, le jour arrive dans lequel la porte de la grâce réellement se fermera. Et alors, beaucoup viendront et diront, mais ce sera trop tard. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle dans sa grâce, dans l'amour, et nous dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos, du rafraîchissement pour vos âmes. Matthieu 11, verset 28. Cette invitation divine, nous voulons aujourd'hui, de manière digne, dans tout le sérieux, la transmettre, l'avoir donnée. Qu'elle puisse atteindre nos cœurs et que nous puissions en nous, et qu'elle puisse en nous produire, avoir produit la décision de suivre le Seigneur, de répondre à son invitation au festin des noces et d'appartenir à ceux qui, en ce jour, seront habillés en blanc, sans problème, sans mort, sans séparation avec Dieu, sans maladie, sans souci, sans souffrance, là-bas, auprès du Seigneur, au ciel, dans la gloire. Et pas seulement un jour, mais dans toute éternité. Pour toute éternité, et personne n'a besoin de s'inquiéter. Ce ne sera pas ennuyeux dans la gloire. Toujours de nouveau, ce sera de nouvelles surprises. Paul, ce grand homme de Dieu, était en esprit, pris, et il a dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, verset 9. Il nous a aimés. Et que nous ne devrions pas aussi de nouveau l'aimer? Il l'a donné sa vie pour nous. Est-ce que nous ne devrions pas aussi lui donner notre vie? Nous voulons aujourd'hui, en regardant au Seigneur le faire, lui donner notre vie. Amen. Chantons un cantique que, en relation avec cette parole, j'ai dans le cœur. Le 151. Le cantique 151. Écoute ton sauveur te faire inviter, te convie. Viens et vois au festin des noces de l'agneau. Le 151. Écoute ton sauveur te convie, viens et vois au festin des noces de l'agneau, viens et vois. Que ce message retentisse partout, venez et voyez. Écoute, il veut te faire grâce. Il t'a fait grâce. Viens et vois. Il veut te nourrir à sa table. Viens et vois. Que ce message retentisse. Que l'appel se fasse entendre partout. Venez, Dieu pardonne tous les pécheurs. Venez et voyez. Le dernier couplet est très précieux. Dieu veut t'accorder beaucoup de grâce. Viens et vois. On doit venir pour le voir, pour l'expérimenter. Il veut te nourrir à sa table. Viens et vois. Que ce message, pas un message, mais ce message, le message de Dieu. Que ce message retentisse partout, par les montagnes et les vallées. Que les montagnes et les vallées fassent entendre son écho. Vous savez que quand on vit une tempête sur la montagne, il n'y a pas seulement le bruit de la tempête, mais elle retentit à cause des montagnes et des vallées. Et ici, ça doit toujours retentir. L'écho doit encore se faire entendre de partout. Que Dieu puisse nous l'accorder à tous. Que nous puissions comprendre comme il a des pensées de paix et d'amour avec nous les hommes. Il n'aurait même pas eu besoin de nous fixer le regard, de nous regarder, je veux dire. Il n'aurait pu nous laisser aller sans s'occuper de nous à la perdition. Mais qu'est-ce qu'il a touché à descendre sur terre, à devenir homme et à porter sur lui toute l'opprobre, se laisser frapper, blesser, meurtrir et aller en tant qu'homme sur la croix et laisser son sang et répandre son sang. Laisser sa vie et reprendre son sang. Qu'est-ce qu'il a touché? Qu'est-ce qu'il a poussé à le faire? Encore un verset, je ne vais pas le lire, je vais le citer. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Hébreux 2, verset 3. Soyons attentifs à l'invitation, à l'appel de Dieu et répondons et suivons. Et disons, maintenant je comprends. Moi aussi tu m'as invité. Moi aussi tu m'invites. Je viens. Maintenant, je crois de tout mon cœur. L'invitation est adressée à moi, personnellement. Maintenant, je crois ce que tu as fait pour moi. Fais-moi grâce et fais-moi grâce. Et nous pouvons, aujourd'hui, avoir le plus beau jour de notre vie. Comme ce cantique dit, c'était le plus beau jour que Dieu m'a donné, m'a accordé, quand Jésus vint dans mon obscurité. Levons-nous. Nous chantons encore ce cœur tel que je suis, sans rien de moi. Tel que je suis, sans rien de moi. Sinon, en ton sang versé pour moi. Ton sang qui me purifie. Ô agneau de Dieu, je viens. De Dieu, je viens. Je viens. Père céleste, courbé et humble, de manière humble, nous venons devant ta sainte face pour parler avec toi. Si Christ n'était pas mort pour nous, nous ne pourrions pas parler avec toi. Ta colère serait encore sur nous. Mais nous avons trouvé grâce et nous avons suivi l'invitation, répondu à l'invitation. Seigneur, tu nous as agréés, tu nous as accordé ton pardon, tu nous as fait grâce. Nous te remercions pour cela. Seigneur fidèle, nos cœurs sont profondément touchés de ce que tu nous as accordé. Tu nous as rien imputé. Tu nous as tout pardonné. Chaque transgression, tout. Toutes les choses avec lesquelles nous n'aurions pas pu subsister devant toi. Tu les as expiées, tu les as effacées alors que sur la croix à Golgotha, tu as répandu ton sang. Ô Seigneur fidèle, que tous puissent comprendre que c'est pour cette raison que nous t'aimons de tout notre cœur et te remercions pour ce que tu as fait. Car nous étions sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Mais maintenant, nous t'avons trouvé, toi, Seigneur fidèle, et en toi, nous avons l'espérance vivante, car éternellement, nous serons auprès de toi. Seigneur, cela est une douleur de voir que des hommes dans ce temps t'humilient. Ô Seigneur, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Fais-leur grâce. Tu es notre Rédempteur. Et nous avons la grâce de t'appartenir pour ce temps et pour l'éternité. Nous te demandons, Sauveur fidèle, reviens bientôt et prends-nous auprès de toi dans la gloire à la maison. Seigneur, nous voulons être auprès de toi. Oh, nous désirons ardemment venir dans ta gloire, aller dans ta gloire et nous asseoir à cette grande table par ta grâce, habillés en blanc, dans toute la fraîcheur, être revenu dans sa jeunesse, sans douleur, sans mort, sans tristesse, sans souffrance. Toutes les choses terrestres seront restées derrière nous, oubliées pour toujours. Tout sera glorieux et nouveau auprès de toi, toi Seigneur fidèle, ô Sauveur. Parle aujourd'hui de manière particulière à nos cœurs, très puissamment, par ta parole et par ton esprit. Nous te demandons aussi de bénir le festin des noces ici tout à l'heure et bénis tous ceux qui prendront part à cette fête et que nous puissions avoir devant les yeux et penser que toi aussi, tu as tout préparé au ciel et qu'un jour, nous serons en haut avec toi au grand festin des noces et nous prendrons part à cela. Adoration et honneur te soient apportés, le seul vrai Dieu, pour ta vraie parole éternelle, véritable, que tu nous as transmise. Loué et exalté sois-tu, ô Seigneur, dans toute éternité, dans le Saint-Nom de Jésus. Amen. Alléluia, sois glorifié, sois alléluia, amen. Alléluia, sois glorifié, tu nous as bénis. Amen. Amen.